Céline, avec un extrait de la pièce Marc-Christel. Un extrait qui est en fait un passage du début de l'évangile de Marc. Donc, ce passage si spectaculaire où il y a une foule qui danse, qu'on voit à peine qui se passe. On ne voit pas vraiment ce qui se passe. Et il y a le toit qui fait la foule, une arrivée improbable à travers le toit, du paralytique. Une réaction hostile de deux chefs religieux. Et en l'occurrence, peut-être un peu plus que ça. Et puis, au milieu, un homme extraordinaire écrivant Jésus. Donc c'est un épisode de la vie de Jésus qui a lieu au tout début de son ministère, au tout début de l'évangile de Marc. Et l'évangile de Marc, c'est simplement une biographie de la vie de Jésus par un contemporain donc, qui fait partie de la Bible. Au début de cet évangile, il y a un fil conducteur qui revient quasiment jusqu'au chapitre 9, où il y a une question qui est comme en filigrane. Qui est ce Jésus? La question revient régulièrement. Alors, lui, jusqu'ici, on l'a vu au chapitre 1, alors il faudrait lire le passage précédent, mais vous pourrez le lire de l'autre côté. On a vu Jésus qui guérit, qui enseigne et qui chasse des démons. Et ça l'a rendu très populaire. Il fait qu'il y a des foules qui viennent s'agglutiner autour de lui. Et lui, juste à la fin du chapitre 1, juste avant la lecture qu'on va avoir ce matin, il cherche les lieux des il cherche à témoigner, il cherche des lieux d'inhabitude. Mais il va retourner en ville. Alors, je vais d'abord prier pour remettre Dieu Père, on veut te remercier pour cette grâce que tu nous fais d'être là ce matin, pour ouvrir ta parole et pour apprendre de toi. Donc, que tu nous ouvres les yeux, que tu nous aides à découvrir ce que tu veux nous apprendre, que tu émerveilles nos cœurs. On prie aussi pour les moniteurs d'école suivante chez les enfants qui en bas sont aussi enseignés. Voilà, toi auprès de nous, tu vois nos cœurs, tu vois nos préoccupations. Et tu vois aussi mon bien-être. Et je souhaite que tu puisses les combler ce matin. Amen. Alors, Jésus retourne en ville. Je vais vous lire donc les premiers versets du chapitre 2 de l'évangile de Marc, versets 1 à 12. Et je lis dans une version qui est un peu moins courante, histoire de renouveler un peu notre lecture. Mais elle est juste. Hein. Ouais. Donc c'est à la fois parole de lui, parole du monde, parole de lui, bien sûr. Quelques jours plus tard, Jésus retourne à Capernaum. On apprend rapidement qu'il est dans telle maison. Les gens accourent en si grand nombre qu'il n'y a bientôt plus de place, même devant la porte. Pendant qu'il leur annonce le message, voilà un groupe qui arrive amenant un paralysé porté par quatre hommes. Mais impossible de s'approcher de Jésus à cause de la foule. Alors les porteurs vont sur la terrasse qui forme le toit de la maison, enlèvent quelques poutres juste au-dessus de l'endroit où se tient Jésus, et par cette ouverture, ils font descendre le brancard avec le paralysé. Lorsque Jésus voit leur confiance en lui, il dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y a dans l'assistance quelques interprètes de la loi qui se disent en eux-mêmes, « Comment cet homme aussi parler ainsi? C'est du blasphème. Qui d'autre que Dieu peut pardonner les péchés ?» Instantanément, Jésus pénètre par son esprit les réflexions qui se font à eux-mêmes. Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même, leur dit-il? Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire au paralysé tes péchés te sont pardonnés, ou lui dire lève-toi, prends ton lit et marche? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a plein pouvoir sur la terre pour accorder le pardon des péchés. C'est pourquoi, poursuit-il en s'adressant au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi. Emporte ton brancard et rentre chez toi. Sur le champ, l'homme saute sur ses pieds, il saisit son brancard et sort de la maison devant tout le monde. Tous sont stupéfaits et comme hors d'eux-mêmes. Ils rendent gloire à Dieu en disant « Jamais nous n'avons rien vu de pareil. » C'est du jamais vu. Ce passage se termine comme ça sur une note d'étonnement. Et en fait, je crois que tout le monde dans cette histoire, tous les groupes de personnes vont être à un moment ou à un autre étonnés. Et je vous propose de regarder quatre groupes qui sont concernés par cette histoire. Le premier, la foule. Le deuxième, le paralysé et ses amis. Le troisième, ça va être les spécialistes de la loi, ces religieux qui qui venaient voir Jésus, et enfin nous. Alors la foule c'est le groupe qui est le moins actif dans l'histoire, ils sont à regarder ce qui se passe, on les voit un peu au début de l'histoire, un peu à la fin. En fait, il n'est pas du tout évident qu'ils aient cherché à comprendre ce qui se passait, ce qu'ils ont vu. En fait, malgré les déclarations explicites de Dieu au baptême, celles des démons même, et même les enseignements de Jésus qui étaient clairs dans sa vie, il semble que les foules n'ont pas vraiment cherché à comprendre qui il était, et ce jusqu'à sa mort, jusqu'à la fin de l'évangile de Marc. Et on voit Jésus, lui, qui de son côté ne s'attache pas à son succès populaire, il sait que cette soif de sensationnel, cette soif de voir ce faiseur de Dieu, n'est pas forcément une soif de Dieu. Alors certes, ils sont très nombreux à suivre, ils ont envie de le voir, mais en fait plus tard, Jésus sera seul. Au moment où il aura besoin peut-être plus de soutien, il sera tout seul, arrêté dans un jardin. Tout le monde se sera enfui. Alors, peut-être que pour nous, c'est déjà un premier enseignement de se dire que, comme Jésus, ouais, Jésus qui ne cherchait pas les foules, qui préférait parfois aller seul à un endroit, parfois être accompagné de quelques disciples, alors il en sait mieux si les foules. Ouais. Faisons aussi, nous, plus attention aux personnes qu'aux foules. Je sais que ça pourrait être une tentation, notamment pour moi, de chercher plus l'admiration d'une foule que d'être connu par une personne. Et pourtant, ça a beaucoup plus de valeur d'être connu vraiment par une seule personne que d'être célébré, admiré par plein d'inconnus. Mais la foule ici, elle nous transmet un message très important. C'est que Jésus est vraiment sensationnel. Ils cherchaient du sensationnel et ils ont vu un homme sensationnel, exceptionnel. Cette phrase, nous n'avons jamais rien vu de pareil, c'est un témoignage qui doit être fort pour nous. Il n'y a pas eu 15 000 Jésus en Israël au 1er siècle. Ils avaient déjà été étonnés d'ailleurs avant, au premier chapitre, il y a ce passage dans la synagogue où Jésus va chasser un démon dans la synagogue. Et là, on va être frappé de deux choses. À la fois de sa puissance pour chasser les démons en un mot, et aussi de son autorité pour enseigner. La foule nous répète cela, Jésus est unique. Et enfin, le dernier rôle de la foule, c'est quand même un rôle négatif, c'est qu'elle est un obstacle pour le paralysé. Les amis du paralysé ont dû contourner la foule, passer par le toit. Je suppose que quand même, pour moi, les personnes qui étaient à l'extérieur de la maison, qui s'étaient conduites jusqu'à la porte, ils ont dû le voir arriver, le brancard. Mais ils n'ont pas été très charitables. Alors, on va s'intéresser au deuxième groupe d'acteurs, qui est le paralysé et ses amis. Ça, c'est des acteurs surprenants. Il y a quoi c'est la tenacité des amis du paralysé. Mais en même temps, si on était là à ce moment-là, qu'on les aurait approuvés. Je ne suis pas sûr de ça en y réfléchissant. Imaginez que ce culte ce matin, on soit tellement rempli qu'il y ait des personnes debout partout, qui soient comblées jusqu'à la porte, et puis même qu'on soit au point de refuser du monde. Alors il y a quelqu'un, alors c'est pas moi du coup, il y a quelqu'un qui attire les foules, qui est ici et qui va prêcher. Et alors en plein milieu, il est en train de prêcher, on creuse dans le plafond, il y a des miettes partout, on descend sous première place, les gens sont obligés de s'écarter, ils interrompent ce qui est en train de se passer, c'est gonflé. Derrière, il va falloir réparer. Je sais pas, il y en a qui disent que ça se préparait bien, mais enfin quand même. Mais c'est vrai qu'il y a cette belle preuve d'amitié des amis du paralysé, je crois une preuve de persévérance surtout. Je crois que ça souligne surtout l'incapacité totale de cet homme paralysé à débrouiller tout seul. Il a besoin d'être porté, il a besoin qu'on fasse des choses extraordinaires pour qu'il puisse arriver jusqu'à Jésus, même là, c'est encore pas lui qui agit. Il dit pas un mot pendant tout cet épisode. Il fait que se lever, prendre son bancal et partir. Il croit que Jésus peut résoudre son problème. Et en fait, à ce moment-là, c'est à son tour d'être surpris. Alors, vous n'avez pas vu l'expression d'Aline quand elle était couchée, mais elle était surprise quand Jésus lui a parlé. Il lui dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et alors, ça aussi, c'est surprenant. Est-ce que Jésus se moque de lui? Est-ce qu'il spiritualise? Est-ce qu'il ne voit pas le problème du paralysé? ou alors il dit c'est un petit détail matériel. Et je crois pas. Non, Jésus n'est pas insensible à la peine paralysée. Parce que la chose qui nous manque le plus clairement, c'est qu'il va guérir. Il va guérir. Mais il porte son regard vers le problème le plus important pour lui. Son problème, c'est son péché. Son péché, j'insiste sur le mot. Le problème des hommes, le premier problème des hommes, c'est le péché. Alors c'est un mot qui n'est pas à la mode, c'est un mot qui est quasiment une grossièreté dans la bienséance actuelle, il y a des choses qui ne passent pas. Et pourtant, je pense que cette description de la nature humaine, en fait, qui est faite dans la Bible, elle a quelque chose de très réaliste, très, très conforme à la réalité. Et en fait, elle est rejointe par beaucoup d'auteurs qui ne sont pas chrétiens. Ce que ça veut dire, c'est l'homme est pécheur, il y a quelque chose de mauvais en lui, de profondément mauvais, quelque chose qui ne devrait pas être là. Quelque chose qui n'était pas là au départ. Je suis tombé sur un livre d'un psychiatre américain, je ne l'ai pas lu en entier, j'ai lu quelques bouts de chapitres, qui vous rassure, donc il s'appelle Robert Simon en français, je crois qu'on dirait plutôt Robert Simon. Donc c'est un livre qui a été publié par l'Association américaine de psychiatrie, et qui a eu un certain retentissement. Et le titre de ce livre, c'est « Les hommes mauvais font ce dont rêvent les hommes bons. Bad men do what good men dream. » Le titre parle de lui-même. N'est-ce pas ? Il conclut en fait après 32 ans de pratique, il a maintenant 20 ans de pratique de plus, donc après 32 ans de pratique en psychiatrie thérapeutique et judiciaire, il conclut qu'il n'y a pas de véritable fossé entre les criminels, entre la vie mentale des criminels et la vie mentale de tout un chacun. Et en fait, il faut pas grand-chose, c'est une question de degré, finalement. Et dans son introduction, il cite un écrivain français qui s'appelle La Rochefoucauld, et cet homme a dit « Nous en prenons souvent honte de nos plus belles actions, si le monde voyait tous les motifs qui les produisent. Même nos bonnes actions ne sont pas au fond toujours si bonnes si on regarde les motifs. Les hommes mauvais font ce dont rêvent les bons. Ça m'a fait penser très fort à un roman qui s'appelle L'étrange cas du docteur Jekyll et du Mr. Hyde. C'est très court, je vous le conseille. Bon, ça y est, la Bible d'abord, bien sûr, mais c'est vraiment fort la manière dont il décrit la lutte intérieure d'un homme. Et pour ceux qui voient de quoi je veux parler, je ne connais pas les adaptations, hein, je vous conseille un peu, car je ne sais pas ce que va dire les adaptations. Est-ce qu'on n'a pas tous un peu en nous-mêmes un Mr. Hyde qui nous rend la vie difficile? Et selon la Bible, le péché, c'est avant tout une révolte contre Dieu, un rejet de Dieu. Et du coup, c'est cette relation qui est brisée entre Dieu et les hommes, qui est la source de tout ce qui ne va pas dans le monde. Vraiment, c'est là qu'il découle tout ce qui peut mal tourner en fait. Livré à nous-mêmes, on est comme paralysé, incapable de régler en profondeur ce problème du péché. La Bible dit quelque chose de fort, on voit dans toutes les religions qu'il y a un problème à résoudre. Alors on formule de différentes manières, on voit qu'il y a quelque chose qui tourne pas. Et souvent on va décrire comme l'homme malade, il y a quelque chose à corriger, mais la Bible nous dit l'homme est mort, nous ne sommes pas malades du péché, nous en sommes morts, incapables de nous en sortir tout seul. J'avais vu cette illustration, on dit souvent la foi est une béquille pour les faibles. C'est vrai, mais en fait c'est plus que ça. Si vraiment on est mort, le bon exemple, ce serait plutôt un pacemaker. La foi, c'est un pacemaker. Sans ça, c'est quelque chose qui nous permet de faire battre notre cœur, sinon nous sommes morts. Alors, chien à souligner ainsi, ça ne veut pas dire que le paralysé ici, il est montré du doigt parce qu'il aurait été plus pécheur étant donné qu'il serait paralysé. Donc, il a eu directement les conséquences de ses péchés. C'est vraiment pas ce que dit la Bible. Jésus met les choses au clair dans Jean 9 à propos d'un aveugle. Il n'y a pas de différence. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 2, verset 22 à 23. Vous, froid et paralysé. Et en parlant du pardon des péchés au paralysé, Jésus écarte toute tentative de combler la relation brisée avec Dieu par autre chose. Vous savez, dans nos cœurs, souvent, peut-être qu'il y a des exceptions dans la salle, mais je pense qu'on a beaucoup de « si seulement ». Si seulement j'obtenais telle et telle chose, alors, si j'avais tel diplôme, tel emploi, telle voiture, telle relation, telle personne qui me regarderait, alors j'irai mieux, alors je serai quelqu'un, alors j'aurai un sens à ma vie. Et tous ces si seulement, pour le paralysé, ça pourrait être si seulement je pouvais marcher. Mais à tous ces si seulement, il succéderont d'autres si seulement. Le vide dans notre cœur, le vide qui est en forme de Dieu, il ne se remplit pas de ces choses qui ne sont pas absolues. La vraie question, c'est si seulement j'étais pardonné et réconcilié avec Dieu. Alors, on va y voir. Là, il y a un truc qui est aussi un peu surprenant. Qui est-ce qui est censé accorder le pardon ? Imaginez que j'offense Jérémy, j'insulte. Jérémy fait un moins que rien. Et puis Nathan vient vers moi et me dit je te pardonne. Mais Jérémy, il aurait le droit de se sentir offensé. Il dit, mais c'est pas à Nathan de demander de le pardonner, c'est à moi. Et en fait, dans la Bible, c'est clair, c'est à la personne offensée de pardonner. Et la Bible enseigne que le mal est ultimement une offense contre Dieu. Certes, quand on fait le mal, on fait souvent du mal aux autres, presque toujours à soi-même. Et là, je vous renvoie encore à la nouvelle du docteur Haye. Le mal est au fond une pulsion suicidaire. Mais le mal, après nous affecter, affecter notre prochain, ultimement, d'après la vie, c'est une offense à Dieu, notre Créateur, c'est lui qui règne. C'est lui qui. C'est, en fait, on trahit celui qui nous a fait à son image, qui a fait une image magnifique dans sa création. C'est un Père généreux. Et nous, on commence sa création en faisant ça. Et en fait, c'est là-dessus qu'on va s'intéresser à notre troisième groupe. Eux, ils réagissent à ce moment-là. Les chefs religieux, les spécialistes de la loi, qui étaient là un peu pour vérifier l'enseignement de Jésus, ils étaient tranquillement assis, moi j'imagine, un peu au premier rang, hein, place d'honneur. Et là, ils sont choqués. Ils disent, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Est-ce qu'ils ont raison quand ils disent ça? Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Ultimement, l'offense d'un homme, c'est une offense contre Dieu. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils sont scandalisés? Et là, j'aimerais qu'on soit aussi un peu scandalisés. Jésus ne se présente pas juste comme un bon chef de morale qui vient enseigner les choses, faire du bien. Il va beaucoup plus loin. Quand il dit « je peux pardonner les péchés », il dit « je suis Dieu ». Et finalement, Jésus ne laisse pas de compromis. Soit il ment, soit il n'est pas Dieu, et alors il blasphème, et ils ont raison, les chefs religieux de le condamner. Soit il est vraiment Dieu. Il n'y a pas d'alternative. J'ai trouvé un auteur qui avait cité Lewis qui le dit très très bien dans son livre Les fondements du christianisme. Alors je vais juste citer ces mots. Donc à la fin de son chapitre, il dit « Je cherche à empêcher quiconque de prononcer cette phrase stupide. Je suis prêt à voir en Jésus un éminent maître de morale, mais je refuse sa prétention d'être Dieu. Un homme qui ne serait qu'un homme et qui tiendrait les propos que tenait Jésus ne serait pas un grand professeur de morale. Ce serait soit un fou, comme quelqu'un qui affirmerait être un maître fauché, soit le démon des enfers. Il nous faut choisir, ou bien cet homme était et reste fils de Dieu, ou bien il ne fut rien d'autre qu'un animé, ou pire encore. » Donc, ok, Jésus se prend pour Dieu. J'ai entendu une blague une fois, c'est deux hommes qui sont dans un lit d'hôpital psychiatrique, il y a un médecin qui vient les voir, et il dit au premier, bonjour, qui êtes-vous? Il dit, bon, je suis la réincarnation de Napoléon Bonaparte. Ah bon, comment vous pouvez en être si sûr? Il dit, c'est Dieu qui m'a dit. Et le voisin lui dit, non, je n'ai pas dit. Donc, vous voyez, en général, ce genre d'affirmation comprend pas le style. Sinon, cette blague ne serait pas une blague. Mais la différence avec Jésus, c'est qu'il a des arguments. Et il en donne, comment ? Il en donne deux dans ce texte sous forme de questions. Et le premier, c'est pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? C'est ce qu'il dit aux pharisiens, aux spécialistes de la loi. Alors, on n'a pas pu jouer juste en le pensant avec Jacques, parce qu'il n'est pas capable de lire dans le cœur. Ça, c'est bien dommage, parce que du coup, la suite est un tout petit peu moins fidèle. On a dû lire à l'orage. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans vos cœurs en ce moment, pour savoir si à peu près vous suivez. Mais je ne peux pas. Et Jésus, il a cette capacité, lui, il est capable de lire dans les cœurs. Au passage, ça nous aide à comprendre comment Jésus, sans un mot du paralytique, est capable de lui dire « tes péchés sont pardonnés ». Il arrive à voir la moindre étincelle de foi, la moindre étincelle de repentance dans son cœur, de contrition devant Dieu, et il sait dire « tu es pardonné ». Il aurait très bien pu être opportuniste, hein, mais Jésus connaît ses pensées. L'argument numéro 2 de ce passage, justement, c'est la deuxième question qui va nous amener vers nous. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire ? Tes péchés sont pardonnés ? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire ? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche. On a vu, donc la foule était étonnée. Le paralysé, lui, il a pas pu être surpris parce que lui a dit Jésus. Les chefs religieux étaient choqués par la prétention de Jésus. Et nous, cette phrase pourrait nous laisser perplexes aussi. À première lecture, elle peut paraître simple. Jésus dit, qu'est-ce qui est plus facile ? Bon, a priori, on peut dire que tu es pardonné, ça ne se voit pas. Le fait de dire les fois et marche, il va quand même falloir que quelque chose se voit. On peut se dire aussi, qu'est-ce qui est plus facile à dire ? Bon, facile à dire, on connaît cette expression. On peut tout dire, tout est facile à dire. Mais avec Jésus, ça ne marche pas, parce que Jésus est un homme de parole. Et un homme de parole, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Donc ça revient presque à la question, qu'est-ce qui est le plus facile à faire ? Eh bien, qu'est-ce qui est le plus facile à faire ? Pardonner un homme ou guérir un paralysé ? Et au bout du compte, nous, pour nous, les deux, on en est incapable de pardonner à la place de Dieu, on l'a vu, c'est un affaire. Et puis, guérir un paralysé en un mot, bon, ah, je pense qu'avec la médecine moderne, il y a des cas où on arrive à faire des choses, mais comme ça, c'est assez hors de notre portée. Et si je vis Dieu, pour Dieu, qu'est-ce qui est le plus facile ? Lui qui est le créateur de toutes choses, qui a créé les raffinements du vivant, dont les scientifiques s'émerveillent encore aujourd'hui, on est très loin d'avoir déceler même les trucs les plus basiques. Pour lui, ça, un claquement de doigts aurait suffi. Même une parole, même pas un claquement de doigts. Mais qu'est-ce qui a le plus coûté à Dieu ? Est-ce que s'il y a quelque chose qui a coûté à Dieu, c'est pas l'acte du pardon de nos péchés ? Je crois pas que Jésus parle à la légère. C'est le moment dans Marc où on rencontre la première opposition contre Jésus, la première opposition des hommes. Et ça va aller croissant jusqu'à ce qu'il meurt sur la croix. Dès le chapitre 3, en fait, il y a déjà des Hérodiens et des pharisiens qui se concertent pour le faire mourir. Cette opposition, elle va être croissante, jusqu'à ce qu'il soit crucifié, qu'il soit cloué sur une croix. Et là, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ces paroles, elles sont solennelles. Elles parlent du déchirement qu'il y a eu dans la divinité, dans le Dieu trinitaire. On fait penser à ces mots d'un cantique. Pour toi, Jésus, la souffrance, les pleurs, la mort, l'abandon. Et pour nous, la délivrance, le salut et le pardon. Ne passons pas à côté du sujet comme la foule qui arrive, qui regarde, qui repart. Non, extraordinaire. Regardons Jésus tel que lui s'est présenté. Est-ce que sur la croix, il mentait ? Est-il pris d'un acte de folie ? Ou était-il celui qu'il prétend être ? Si c'est le cas, Jésus est vraiment Dieu. Avançons-nous vers lui. approchons-nous vers lui, osons nous adresser dans nos cœurs à lui. Il est bon, il nous montre dans ce passage, il guérit ce paralysé. Et nous qui sommes paralysés spirituellement, on peut aller vers lui, lui est là, plein d'autorité. Il est accessible, il attend la moindre étincelle de repentance, qui est même cachée dans nos cœurs, pour nous dire simplement, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Je prie. Je vais faire toujours quelque chose de fort d'aller dans les pas de ton fils, de regarder, de lire ce que quand on relevait ses apôtres et leurs compagnons, de regarder sa puissance, sa grâce, sa sagesse pour répondre et agir. Je pense surtout pour réaliser que cet homme qui a marché sur la terre, qui a fait tant de belles choses, qui a eu un enseignement si fort, cet homme n'était pas qu'un homme. Je te remercie pour Jésus-Christ, défendu, qui nous dit ces choses si belles. Seigneur, que s'il y a une personne ici qui ne t'appartiennent pas, s'il y a un fardeau sur le cœur de quelqu'un, parce que encore le péché agit dans le déjà, et toi tu as tout vaincu sur la croix, s'il y a quelque chose dans nos cœurs, que nous répondons à ton appel, que nous soyons prêts à suivre, que nous soyons prêts à recevoir ton pardon, et que tu puisses nous dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Seigneur, je veux te remercier d'être ton enfant. Amen.